L'affaire Nolibé, le calvaire d'un père, épisode 3. Claude Nolibé a passé plus d'un mois et demi en détention provisoire. Au moment de la reconstitution des faits, il a clamé son innocence en vain. Le meurtre de sa fille reste un mystère. Claude est sorti de prison, il est donc physiquement libre, mais il reste présumé coupable. Les gendarmes piétinent dans l'enquête, les années passent, la juge d'instruction doit faire un choix, renvoyer l'affaire devant les assises et juger Claude ou classer l'affaire sans suite. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Quatre années pendant lesquelles il ne se passe rien. Une enquête qui piétine. Aucun nouveau témoignage, aucune nouvelle piste ne s'est dessinée. Quatre ans après les faits, en 1995, la juge Rouquier-Lafitte décide de reprendre les investigations depuis le début, avec une nouvelle équipe de gendarmes qui reprennent tout à zéro. De retour sur les lieux du drame, il constate qu'à une centaine de mètres de la maison de Claude se trouve un foyer d'hébergement pour handicapés, l'Institut médico-éducatif de Castille. C'est une piste qui n'a pas été fouillée en 1991. Revenons un peu en arrière, pendant l'été 91. Le lendemain du crime, le 1er août 91, le centre ferme ses portes pour les grandes vacances. Il n'y a plus aucun résident au sein de l'établissement, enfin, normalement. 1995. Dans le doute, la nouvelle équipe d'enquêteurs demande au directeur du foyer de fournir une liste des potentiels pensionnaires qui auraient pu passer une dernière nuit au centre le soir du crime avant la fermeture annuelle. 5 personnes étaient présentes, selon le directeur, ce 31 juillet 1991. 5 personnes qui n'ont pourtant jamais été interrogées. 5 potentiels suspects. Les gendarmes vérifient les antécédents de chacun d'entre eux. Aucun n'a de casier judiciaire. La piste du foyer d'hébergement pour adultes handicapés est donc écartée. Sorti de prison depuis septembre 1991, Claude écrit au président de la République et demande un procès aux assises pour qu'il puisse s'exprimer et être lavé de tout soupçon. Son avocat, Michel Gonel, revient sur le calvaire de Claude dans l'émission Affaires classées sur France 3.
Pendant tout ce temps, Claude Nolibé n'a pensé qu'à cette affaire du matin jusqu'au soir. 6 ans avec l'accusation d'avoir tué sa fille portée sur lui, cela fait de ce crime une deuxième victime. Le coup de couteau a fait 2 victimes.
Le 6 août 1997, Claude Nolibé bénéficie d'un non-lieu pour insuffisance de charge. Ça ne veut pas dire qu'il est innocenté, seulement que la justice n'a pas assez d'éléments pour prouver sa culpabilité. Ce n'est pas ce que Claude attendait. Depuis 6 ans, il est pointé du doigt. À Clairac, rien n'a changé. Il est toujours l'homme qui a tué sa fille. Peu importe les non-lieux, peu importe le manque de preuves. Alors Claude avale des tonnes de médicaments et sombre dans une profonde dépression. Déclaré invalide à 80%, il perd son travail de chariste. Ses nuits sans sommeil sont longues et ses journées vides. Claude n'a plus de raison de vivre. Plus de famille, plus d'amis, plus de compagne. L'enquête est classée, le dossier refermé, les recherches abandonnées. La mort de Caroline Nolibé rejoint la pile des affaires non résolues. Jusqu'à ce 10 mai 2001, et un coup de fil à la brigade de gendarmerie qui va relancer l'enquête. Mai 2001. Nous sommes 10 ans après le meurtre de Caroline Nolibé. Au village de Clairac, ce fait divers ne fait plus beaucoup parler, quand la brigade de gendarmerie reçoit un appel. Au bout du fil, le directeur de l'Institut médico-éducatif de Castille. Rappelez-vous, le centre situé à quelques centaines de mètres de la maison des Nolibé. Il a une importante information à transmettre. Ce matin, en passant l'aspirateur dans les chambres, Isabelle Tartas, la femme de ménage du centre, a fait une étrange découverte. Un mot étonnant sur un papier chiffonné. « C'est moi qui ai tué la fille Nolibé le 31 juillet, pas loin de Longueville. » La feuille de papier a été retrouvé dans la chambre d'un certain Philippe Gandouze, un pensionnaire déficient mental de 37 ans. Le foyer était fermé pour les vacances quand l'enquête a commencé en 1991. Les gendarmes vérifient immédiatement la liste de 1995 des 5 pensionnaires présents au centre le soir du drame. Sur les 5 noms, celui de Philippe est introuvable. Il n'était pas au foyer la nuit du 31 juillet 91. Mais les enquêteurs ne s'avouent pas vaincus et demandent une nouvelle liste des pensionnaires présents le soir du crime. Et là, bingo! Le directeur de l'établissement fouille dans sa mémoire et, finalement, il se souvient. Oui, Philippe Gandouze a bien dormi au centre le soir du drame. La découverte des aveux écrits est un nouvel élément qui permet de relancer l'enquête. Le parquet de Marmande rouvre une information judiciaire pour le meurtre de Caroline Nolibé, 10 ans après le drame. Discrètement, les gendarmes de la section de recherche d'Agen reprennent le dossier. Ils ont un suspect autodésigné Philippe Gandouze. C'est un résident de l'Institut depuis plus de 20 ans. Il souffre d'une déficience mentale et malgré ses 37 années, il a l'âge mental d'un enfant de 7 ans. Au centre, tout le monde est très surpris qu'il s'accuse du meurtre. Philippe est un pensionnaire bien intégré. Il travaille, il est assez autonome et entretient même une relation avec une autre résidente. Au dire de tous, Philippe est exemplaire et non violent. Non, vraiment, le personnel encadrant est unanime. Philippe est le chouchou du centre. Pourtant, si on creuse un peu, le portrait de cet homme n'est pas aussi rose. Philippe Gandouze, le pensionnaire préféré de l'Institut de Castille à Clairac, a en fait un casier judiciaire pour des faits qui ressemblent étrangement à l'agression de Caroline. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Le 12 novembre 85, 6 ans avant le meurtre de la jeune fille, Philippe passe ses vacances chez ses parents à Sainte-Livrade, à 20 km de Clairac. Dans sa chambre d'ado, il s'ennuie, il tourne en rond. Alors il décide de suivre une jeune fille dans la rue. Il attrape un couteau, repère sa victime et la suit. D'un coup, il lui saute dessus. Elle se débat, il prend peur, la blesse avec son couteau et s'enfuit en courant. La jeune fille de 17 ans s'effondre, elle s'en sortira miraculeusement. Philippe est arrêté quelque temps plus tard, mais jugé irresponsable de ses actes compte tenu de sa déficience mentale. Il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de la Candélie près d'Agen pendant 2 années. Placé sous tutelle, il retourne au centre de Clairac à sa sortie de l'hôpital. Le personnel est prévenu, Philippe doit être surveillé, surtout s'il s'approche de jeunes filles. Mais à part cela, il reste libre de circuler où il veut. La vie reprend son cours et aucun nouvel incident impliquant Philippe n'est signalé. Quand Caroline est assassinée d'un coup de couteau, à une centaine de mètres du centre, personne ne fait le rapprochement avec Philippe, ni les encadrants, ni le directeur. De toute façon, tous les regards sont braqués sur le seul suspect, le père, Claude Nolibé. Après 20 jours d'investigation, les enquêteurs ont assez d'éléments contre Philippe Gandouze pour l'interpeller. Le 30 mai 2001, au centre d'hébergement de Castille, une équipe de gendarmerie pénètre dans sa chambre. Immédiatement, sans qu'aucun mot ne soit échangé, Philippe se lève de son lit et crie « Je n'ai tué personne ». Sa chambre est perquisitionnée. Dans ses tiroirs, les enquêteurs retrouvent un carnet sur lequel est écrit « Liste de personnes à tuer »,« Liste à agresser », 3 couteaux de type Opinel et un gant sectionné au poignet. Tout est saisi et Philippe est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de Clairac, à l'endroit même où en 91, Claude Nolibé a vécu 48 heures d'enfer. C'est une enquêtrice qui mène l'interrogatoire de Philippe Gandouze. Elle lui laisse le temps de raconter sa vérité. Et après quelques minutes, il avoue calmement. Ce qu'il a écrit sur ce papier, c'est la vérité. Il avait besoin de l'écrire pour se soulager. Oui, il a tué la fille Nolibé, Caroline, le soir du 31 juillet 91. Il donne des détails précis. la tenue de la jeune fille, l'arme utilisée, un de ses couteaux au Pinel. Caroline, il la connaissait. Elle passait tous les jours devant sa fenêtre. Il la trouvait jolie, c'était la plus belle. Ce soir d'été 91, elle est passée devant chez lui. Il a décidé de la suivre. Avant de sortir de sa chambre, il a pris son couteau et un gant pour ne pas laisser de traces. Il a suivi la jeune femme sur les berges et s'en est suivi le terrible drame. Puis, il s'est enfui et rentré au foyer. Il a nettoyé son opinel et s'est couché tout simplement dans son lit. Contrairement à ce qu'affirmaient les experts, Caroline Olibé n'a donc pas été tuée chez elle, mais à 70 mètres de sa maison. Avec ses dernières forces, elle a marché jusqu'à son portail avant de s'écrouler. Philippe Gandouze a avoué, mais ses aveux sont-ils plausibles? Rappelez-vous, c'est un adulte à l'âge mental d'un enfant de 7 ans. Aucun de ses encadrants ne croit en sa culpabilité. Et surtout, peut-il passer devant une cour d'assises? Plusieurs experts examinent Philippe et il en ressort qu'au moment du crime, son discernement était altéré, mais pas aboli. Il va donc pouvoir être jugé. Une reconstitution des faits est organisée dans la foulée. Philippe reproduit les gestes, montre le lieu de l'agression, désigne le parapluie de Caroline parmi plusieurs autres et réitère ses aveux. Bref, tout concorde. Mais 3 mois après ses aveux, Gandouze se rétracte devant le juge d'instruction. C'est trop tard, il en a trop dit. Il est bien le meurtrier de Caroline. Philippe Gandouze est mis en examen pour assassinat et placé en détention à la prison de Gradignan, un établissement spécial pour les personnes souffrant de handicap mental. Son procès est prévu 3 ans plus tard devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne. La justice va-t-elle enfin reconnaître ses erreurs et mettre un point final à cette terrible affaire? C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette saison consacrée à l'affaire Nolibé. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.